Voilà, bonjour bien-aimé. Je prie que le Seigneur soit notre encouragement ce matin, qu'il soit celui dont nous avons besoin, plus de toi Seigneur, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit qu'il est la source de la vie. Que nous pouvons et nous avons le droit de nous appuyer sur nos forces, sur notre intelligence, mais chacun de nous a fait l'expérience que ces choses-là, parfois, elles peuvent défaillir. Elles peuvent même nous décevoir. Alors que Dieu ne déçoit jamais. Quelles que soient les situations, il est fidèle, il est fiable, il est sûr. Et nous pouvons compter sur lui. Le psalmiste disait, viens, venez et goûtez combien l'Éternel est bon, n'est-ce pas? Et pour ceux d'entre nous qui ont fait l'expérience de cette relation avec Dieu, nous avons été au bénéfice de ses bénédictions. Et même parfois dans les moments difficiles, parce que la vie d'un homme, la vie d'une famille, malheureusement à cause du péché originel, elle est faite aussi d'épreuves et de difficultés. La Bible ne nous promet pas une vie sans difficulté, ce n'est pas vrai, ce serait un mensonge. La Bible nous dit que dans la difficulté, Dieu est là, il est fidèle. Il est celui sur lequel on peut s'appuyer, celui qu'on peut évoquer et on peut compter sur sa bienveillance. Voilà la promesse de la parole de Dieu. Jésus dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le texte que nous allons lire va nous faire entrer dans cette vérité, dans la vérité des promesses de Dieu, mais dans la vérité aussi de ce que Jésus ne nous ment pas, dans la réalité de notre monde sans Dieu. Je vous invite à lire dans l'évangile de Jean, à partir du chapitre 15. Voilà. À partir du chapitre 15. Ce matin, nous allons faire une très longue lecture. Ensuite, je vais vous présenter un long extrait d'un document qu'on appelle des commentaires. Hein, et j'encourage chaque chrétien, à un moment donné de sa vie, d'acquérir des commentaires bibliques parce que ces outils nous aident aussi à mieux comprendre la Bible. Hein. Il y a ce que nous faisons en tant que chrétiens individuels, ce qu'on appelle la méditation. Le matin, nous lisons un texte biblique, nous nous laissons ressourcer par ce texte, nous en tirons quelques leçons spirituelles pour notre journée, et c'est très bien, il faut faire ça. On doit aussi aller plus loin en nous enrichissant de toute la profondeur de la parole de Dieu. Mais à chaque étape, des outils sont intéressants. Et donc, je vous présenterai un outil, un extrait de ce commentaire que je lirai ou que je commenterai avec vous pour vous donner aussi cette indication. Et puis, je finirai par quelques observations sur la fin de ce chapitre 15, début du chapitre 16. Il faut savoir que l'évangéliste Jean est le quatrième par rapport à Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le quatrième évangile qui est tout à fait dans sa présentation différent des trois autres. Il présente des aspects de Jésus que les trois autres n'ont pas forcément présentés. Et ça enrichit les quatre évangiles. Et au moment où il est avec Jésus, parce qu'il faisait partie des douze, où il nous rapporte ces événements, on est quelque part proche du dénouement du ministère de Jésus, de Jésus-Christ, c'est-à-dire on est proche de la croix. Et Jésus va avoir ce long temps d'enseignement avec les disciples. À partir de Jean chapitre 14, il va les prendre en part dans ce qu'on appelait la chambre haute, hein, c'est-à-dire que les constructions en Israël étaient faites d'une terrasse tout là-haut, avec une chambre tout là-haut, où les Juifs aimaient monter pour prier. Hein, et il va se retrouver là avec eux, dans cette chambre haute. Il va prendre le temps de les enseigner, de leur donner encore d'autres directives, des directives un peu plus personnel, non seulement à eux qui sont les premiers disciples de Jésus, donc les apôtres, mais au travers eux, il parle à tous les disciples de tous les temps. Donc il nous parle aussi. Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Je suis le vrai plant de vigne et mon père est le vigneron. Tous les serments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi et moi, je demeurerai en vous. un serment ne saurait porter de fruits tout seul, sans demeurer attaché au sceptre. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le sceptre de la vigne. Vous en êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les serments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse et on les met au feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous pouvez et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenant, vous donc, dans mon amour, maintenez-vous donc dans mon amour, pardon. Verset 10. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et j'ai demeuré dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors, le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Verset 17. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde serait ami de ce qui lui est propre. Si le monde vous déteste, c'est parce que vous n'êtes pas du monde. Alors que moi, je vous ai choisi du milieu du monde. Souvenez-vous de la parole que moi, je vous ai dite. L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Verset 22. Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils ont vu et ils ont détesté, et moi et mon Père. Mais c'est pour que soit accomplie cette parole écrite dans la loi. Ils m'ont détesté sans raison. Quand viendra le défenseur, celui que moi, je vous enverrai du Père, l'esprit de la vérité qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage. Et vous aussi, vous rendez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Chapitre 16. Je vous ai parlé ainsi afin qu'il n'y ait pour vous aucune cause de chute. Ils vous excluront des synagogues. L'heure vient même où quiconque vous tuera pensera offrir un culte à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont jamais connu ni le Père ni moi. Je vous ai parlé ainsi pour que l'heure venue, vous vous souveniez que moi, je vous l'ai dit. Parole du Seigneur Jésus. Jésus avait commencé à parler à ses disciples au chapitre 14. Et à la fin de ce chapitre 14, il a dit, « Levez-vous et partons. » Mais avant ce départ, il va encore avoir ces quelques enseignements pour les consolider, pour leur donner comme une synthèse de tout ce qu'il a enseigné jusqu'avant qu'ils ne subissent l'épreuve finale. Dans ce passage, on voit qu'à 6 reprises, Jésus a prononcé ce qu'on appelle le « je suis » pour attester son identité de fils de Dieu, son identité de Dieu. « Je suis » est une expression que Dieu a utilisée lorsqu'il s'est révélé à Moïse, dans ce qu'on appelle l'épisode du buisson ardent. Quand Moïse a eu cette expérience douloureuse dans le désert et qu'il était un peu errant et que l'heure était arrivée pour lui d'être remis dans le ministère, il fait cette expérience lorsqu'il est berger de son état à cause de son beau-père et qu'il était en train de paître les troupeaux. Il voit un buisson qui brûle sans se consumer. Ça l'étonne. C'est un phénomène extraordinaire. Il s'approche et il entend une voix qui lui dit « ôte tes sandales car le lieu où tu vas commencer à marcher est un lieu saint. » Et là, il y a ce dialogue avec Dieu. Et il dit « mais qui es-tu ? » Et Dieu dit « je suis. » Et le terme hébreu « je suis », ça veut dire « je suis celui qui n'a ni commencement ni fin. Je suis toujours conjugué au présent. » C'est un présent éternel. Je ne suis ni passé ni futur, je suis toujours présent. Je suis. Et Jésus reprend ça 7 fois. Quand on sait que dans la théologie, le nombre 7 est un nombre de la plénitude, Jésus atteste 7 fois qu'il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il est fiable, il est sûr. Les hommes ont toujours voulu voir Dieu, et lorsque Dieu s'est manifesté à eux, ils ont dit « Oulala, c'est comme ça que tu es Dieu ?» Et Jésus a souvent dit devant ceux qui avaient encore des doutes, si vous ne croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres que vous me voyez faire. Parce que les œuvres que je fais, nul autre ne peut les faire. Nul autre ne peut les faire. Quand il dit, il prend cette image agricole. Nous ne sommes pas, pour la plupart d'entre nous, des enfants d'agriculteurs. Peut-être qu'il y en a dans la salle, j'en sais rien. Mais il prend l'image qu'un juif connaissait. Les juifs étaient des agriculteurs, ils cultivaient aussi la vigne. C'est un petit abus que nous pouvons connaître maintenant, nous, dans la culture française aussi. Voilà. Il suffit de se promener dans certaines régions où vous voyez des vignes. Et il prend cette image. Il dit, je suis le sceptre. Le sceptre, c'est le pied de vigne. C'est le tronc de la vigne. Il dit, moi, je suis le sceptre et vous êtes les branches. Il dit, et mon père, c'est le vigneron, celui qui prend soin de toute la vigne. N'est-ce pas? Il dit, quand il y a une branche qui ne porte pas de fruits, pour que l'arbuste ne soit pas malade, on l'arrache. Parce que si cette branche reste attachée à l'arbuste, en fait, elle va aussi empoisonner l'arbuste. Donc, on arrache cette branche et on la jette au feu. Il dit, c'est ce que mon père fait pour les branches qui ne portent pas de fruits. Il dit, par contre, quand une branche porte du fruit, mon père en prend soin, il émonde, il la taille pour que justement cette branche ait vraiment cette nature de branche qui lui permet de pouvoir assimiler toute la sève et de porter vraiment de bons fruits. Il y a tout un soin qu'on apporte à la vigne. Et dit, mon père, il fait ça. Il fait ça. Donc, il présente cette image et dit, je vous dis maintenant à quoi correspond chacun des éléments de cette image. Il dit, c'est vrai, c'est moi qui suis le sceptre. Je suis ce arbuste, ce tronc. Et vous, mes disciples, vous êtes les branches. Tant que vous restez attachés à moi, tant que vous restez attachés à moi et que vous portez de fruits, ça veut dire que vous êtes en bonne santé. Il n'y a pas de raison que mon père coupe cette branche-là. Au contraire, il en prend soin, il émonde, il la taille pour que cette branche continue de porter encore plus de fruits. De quoi il est question lorsque Jésus parle à ses disciples de fruits? Il parle d'abord de sainteté. On parle de branche, on dit quand la branche est saine. Quand la branche est saine. Et quand la branche n'est pas saine, on dit c'est une branche qui est malade. Et la notion de maladie peut faire apparaître la notion d'impureté. Parce que la maladie de cette branche pourrait éventuellement avoir des effets sur le tronc lui-même. N'est-ce pas? Quand Jésus dit, si vous restez attachés à moi, vous porterez du fruit, c'est le fruit de la sanctification. Le mot sanctification vient du mot saint, vient du mot pur, vient du mot bien selon Dieu. Dieu fait toujours le bien et jamais le mal. La Bible dit qu'il n'y a aucun soupçon de mal en Dieu, aucun soupçon, aucune goutte, aucune poussière, aucune ondée de mal en Dieu. Jamais Dieu ne fait le mal, jamais. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais nous avons du mal parfois avec ce, avec le fait que Dieu est toujours bon, n'est-ce pas? Il faut vous rappeler que Dieu, on dit théologiquement, on dit Dieu est en dehors de nos contingentes. C'est-à-dire Dieu, c'est vrai qu'il a pris cette... il est venu comme nous pour nous montrer qu'il nous aime. Mais Dieu, il est en dehors du temps, il est au-dessus du temps, il est au-dessus de nos contingentements. La Bible dit qu'au-dessus de Dieu, il n'y a personne d'autre. qu'il est son propre conseiller parce qu'au-dessus de lui, il n'y a personne. Et qu'il existe de toute éternité. Et quand il a tout créé, il a dit à 6 reprises, c'était bon. Donc il a tout créé bon. Donc s'il a tout créé bon, il ne peut pas avoir de mal en Dieu. Et les gens disent, mais pourquoi le péché est rentré dans le monde? Et on dit, c'est ce qu'on appelle le mystère opaque. On ne sait pas. On a du mal. Théologiquement, Dieu crée un homme et il le crée à son image. En plus petit, n'est-ce pas? Et moi, je suis vraiment reconnaissant à Dieu d'être un homme parce que je vois toute la qualité, toute la dimension humaine, toute l'intelligence humaine, toute la capacité à faire le bien, malgré que nous sommes nés dans le péché. Malgré que chacun de nous naît dans le péché, Dieu préserve le bien dans son humanité et on est capable encore, même sans Dieu, de faire le bien. C'est incroyable. Ce Dieu-là, il est fort, il est puissant, il a aimé l'être humain au point, même quand l'être humain a péché, il ne lui a pas enlevé toutes ses bénédictions. C'est comme un parent. Un parent, même s'il a été poignardé de la façon la plus horrible par un enfant, en tout cas, un parent aimant a du mal, même s'il a une douleur, même s'il est fâché, même s'il n'est pas content, cette filiation, elle est toujours là. Et on dit, les mamans vivent plus ça que les papas. Et souvent, les papas disent, mais quand même, il nous a fait ça, et toi, tu es là, tu veux quand même le garder. Et mais oui, parce que... Et Jésus prend cette image, pourquoi? Il prend l'image de l'enfantement. Il dit dans la création, Dieu a donné cette grâce aux mamans d'enfanter. Et quand une maman enfante un enfant, il y a un lien qui est trop puissant. Il y a un lien qui est fort. Et ce lien fait que, quel que soit malheureusement l'itinéraire que l'enfant peut prendre, ce lien-là. Et on a pu le voir de façon un peu plus terrifiante lorsque des mères de certains terroristes pleurent quand ils sont morts. C'est ça, ça montre le lien. Qu'elles valident l'acte de leur enfant. Pour la plupart des mères, elles ne valident pas l'acte, mais ça reste leur enfant. Ça reste leur enfant. Et Dieu est 10 milliards de fois plus que ça. Il reste attaché à nous malgré que nous sommes dès l'origine tordus par le mal. Il a cette filiation avec nous. C'est pour ça qu'il aime la notion de parent. C'est pour ça que la Bible parle beaucoup de cette filiation de Dieu. Dieu se présente comme un père, comme une mère. Il prend toujours l'idée et qu'il nous a enfantés, qu'il nous a accouchés. Il dit, Israël, j'ai accouché de toi. Il y a cette filiation. Et donc, ce fruit qu'il attend, c'est la sainteté. Il est vrai que dès qu'on dit sainteté, on dit, mais est-ce qu'on peut atteindre la sainteté parfaite sur la terre? Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avancer dans cette sainteté. Que plus tu matures dans ta foi chrétienne, plus ta vie devient une vie de bien, selon Dieu. N'oublions pas que le bien est celui qui est défini par la Bible et non par le monde. Hein? Vous savez que parfois les horloges sont déréglées dans notre monde. Vous savez que parfois les boussoles sont déréglées dans notre monde. Ce qui était hier le nord, aujourd'hui devient le sud et après demain devient l'ouest. Alors qu'une vraie boussole ne perd jamais le nord. Notre monde a trop souvent perdu le nord. Notre monde a beaucoup de fois perdu le nord. Ce qui était mal hier est appelé aujourd'hui bien. Et lorsqu'en prédication nous voulons dire ces choses, parfois, on dit attention pasteur, attention à ce que tu vas dire. Parce que les normes ont changé. Parce que nos constitutions ont changé. Oui, nous sommes des citoyens respectueux de notre constitution, mais nous avons 2 citoyennetés. Nous sommes citoyens d'ici, mais nous sommes citoyens aussi du ciel. Amen. Et nous ne pouvons pas brader notre situation, notre citoyenneté du ciel au profit de celle de la terre. Et pourtant, Romains chapitre 13 nous invite à obéir à nos autorités. Et nous faisons tout pour obéir à nos autorités. Et nous le faisons et nous encourageons nos frères et sœurs à obéir aux autorités. Donc le premier fruit dont parle Jésus ici, c'est cette sainteté. Cette vie qui veut toujours marcher en mettant notre conduite, nos habitudes, nos pensées, nos paroles, conformément à la Bible. Conformément à la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit de telle option que je veux prendre? Est-ce que la Bible est d'accord avec cette option-là? C'est ça le reflet du chrétien quand il pense à la sanctification. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cette façon de penser? Est-ce que cette façon de penser, est-ce que la Bible la soutient? Est-ce que la Bible l'encourage? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce type de relation? Est-ce que la Bible encourage ce type de relation ou pas? C'est ça la sanctification. Quelqu'un qui pense être sanctifié, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il a des décisions, lorsqu'il a un type de comportement, un caractère, lorsqu'il a des valeurs que lui-même il veut confirmer dans sa vie ou enseigner à ses enfants, il se pose toujours la question, est-ce que ces choses sont conformes à la parole de Dieu? Est-ce que ces choses sont conformes à la Bible? C'est pour cela que le dimanche matin, le culte n'est pas une option. Parce que c'est là aussi que vous venez prendre quelques enrichissements de la parole de Dieu. Pour justement confronter à ce que vous savez de la parole de Dieu et à ce qui est expliqué. Pour vous enrichir, pour vous confirmer dans certaines choses et des fois pour vous corriger aussi. C'est pour cela que le culte peut paraître comme quelque chose d'optionnel. Si j'y vais pas, c'est pas si grave que ça. Mais si, c'est grave. Si c'est grave. Parce que pendant le culte, ceux qui président la louange la président avec la parole de Dieu. Donc la louange elle-même, les chants sont fondés dans la parole de Dieu. C'est des encouragements que vous recevez déjà. C'est une première parole que vous recevez par rapport aux chants qui vont vous encourager, qui vont vous exhorter, mais qui parfois, il y a les chants aussi qui nous corrigent. Hein. Les chants qui nous corrigent. Et puis, celui qui préside le culte va aussi, dans cette présidence de culte, vous donner quelques textes bibliques déjà pour vous encourager. Moi, j'aime ça. Quand le président me donne des textes bibliques, je les note des fois. Et quand je reprends mon culte dans la semaine, je revois ces textes-là et ça me fait du bien. Moi, je me suis convaincu que le dimanche matin, si Dieu me fait venir dans une église, il a une bonne raison de me faire venir dans une église. La première des choses que je constate, c'est tu as quelque chose à me dire dans ce que je vais vivre dans le culte. Dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, dans la prédication de la parole. Et puis, il y a quelque chose que j'aime, c'est la relation avec les enfants de Dieu. Avoir mes frères, les voir, communier avec eux, prendre des nouvelles. Les semaines ne sont pas toujours simples, n'est-ce pas? Et tout ça fait partie de nos sanctifications. Et Jésus va en parler. Et le deuxième aspect de ces fruits, c'est l'œuvre de Dieu. Il parle à des disciples qu'il va envoyer en mission. En mission pour faire quoi? Pour parler de l'amour de Dieu. Pour faire rentrer tous ceux que Dieu veut sauver dans la bergerie. Jésus était préoccupé par le fait qu'il y avait d'autres enfants qui avaient besoin d'entendre la parole. Et parfois, quand il était dans des environnements où les gens voulaient le retenir, il disait « Non. Ce que je devais faire à vous est terminé. Il y a d'autres qui ont besoin que j'aille pour leur enseigner cette parole. » Et il dit à ses disciples « Levez-vous, partons. » Quand il a fait les miracles de ses pains et de ses poissons, les gens étaient tellement contents d'avoir bien mangé. Ils disaient, oh, on va le garder. Jésus dit, non. C'est bien, vous êtes rassasiés, mais ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je ne pouvais pas vous laisser affamés alors que je vous ai enseigné, donc je vous ai donné aussi de la nourriture. Mais par contre, il y a d'autres enfants de Dieu qui attendent aussi que je les prêche l'évangile. Donc le deuxième aspect du fruit, c'est la mission que Dieu nous a donnée, d'annoncer cet évangile. De porter cette bonne nouvelle à tous ceux qui ont besoin de l'entendre, à tous ceux qui ont besoin de se tourner vers Dieu. Et il dit, nous devons porter des fruits dans ce domaine-là aussi. Bien sûr, nous ne sommes pas tous évangélistes, bien sûr, nous ne sommes pas tous pasteurs, bien sûr, nous ne sommes pas tous missionnaires, bien sûr, nous ne sommes pas tous monitrices d'école de dimanche, bien sûr, nous ne sommes pas tous animateurs de groupes de jeunes, bien sûr, nous ne sommes pas tous... conductrice de groupe des femmes, bien sûr, ne sont pas tous conducteurs de groupe des hommes, bien sûr, ne sont pas tous invités à être à la louange, mais nous avons tous des relations. Nous avons des gens que nous aimons, des hommes et des femmes que nous aimons, dans nos familles, dans notre entourage. Et nous avons compris que quand même, la fin de notre vie a deux chemins. C'est soit le paradis, soit l'enfer. Il dira dans ce texte, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Si nous aimons nos familles, on ne peut pas... Lors de mon voyage, il y a 3 semaines en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est mon pays d'origine, mes parents y vivent, j'ai passé 2 jours en famille, mon père et ma mère sont rentrés à la campagne, dans leur maison, j'ai passé 2 jours avec eux. Ma mère s'est donnée à Dieu très tôt, lorsque moi je me suis donné à Dieu, la seule chose que je voulais que ma mère sache, c'est que j'ai Jésus-Christ, et je voulais lui annoncer Jésus. Je vous ai déjà dit ce témoignage, j'ai annoncé Jésus à ma mère, par une longue lettre que je lui ai faite, et le dimanche qui a suivi, elle est allée dans une église évangélique, elle s'est convertie. C'est le plus grand cadeau que Dieu m'a fait. Et j'étais très jeune à l'époque, en première année d'université. Et pourtant, mon père, il n'est pas encore dans la foi. Et pendant ces 2 jours à la maison, j'ai dit, papa, il faut qu'on parle. Je lui dis, tu sais. Et je lui ai raconté ce qu'il est pour nous. Je lui dis, pourtant, tu sais, on aimerait aussi dans l'éternité être avec toi. Parce que la Bible dit qu'il y a 2 chemins. Il y a le chemin de la perdition et le chemin de la vie éternelle. Là, tu n'es pas encore sur le bon chemin, papa. On aimerait tellement être avec toi dans l'éternité, tellement. Entends ça. Prends le temps qu'il faut, mais tu sais, le temps, il ne t'appartient pas. Tu atteins un âge où tu es plus proche de partir que d'être encore vivant. Bien aimé, si on aime les gens de nos familles, nous allons porter ces fruits-là, leur annoncer la bonne nouvelle, leur dire la vérité de Dieu. Leur dire la vérité de Dieu. Après, c'est Dieu qui agit dans le cœur, ce n'est pas nous. Mais nous avons au moins ce privilège de leur dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ensuite de prier pour eux. De prier pour eux. Parfois, ce n'est pas en les invectivant, ce n'est pas en les harcelant qu'ils vont se convertir. Non, c'est en disant la parole et en vivant la parole et en priant pour eux. En priant pour eux. Et nous voulons porter des fruits. On n'est pas dans une concurrence de combien de personnes t'envoient à l'évangile. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. On a une bonne nouvelle. Qui peut garder une bonne nouvelle, bien-aimé? Qui peut garder une bonne nouvelle? Regardez, quand notre monde a pu enfin trouver un vaccin, la nouvelle s'est répandue dans le monde. L'espoir a commencé à naître, n'est-ce pas? Parce que c'était une bonne nouvelle par rapport à ce Covid qui nous avait enfermés pendant 3 mois, où il n'y avait pas d'itinéraire, il n'y avait pas de perspective. On ne savait pas quoi faire. Et le monde a commencé à chercher des solutions. Et quand la première solution a pointé, les médias se sont emparés. Le vaccin a été trouvé, on l'a expérimenté. Bref, et nous, on a une bonne nouvelle. Dans cette métaphore de la maladie, on a une bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle dans cette métaphore de la maladie. Le péché est plus que le Covid. Il est pire que le Covid. Le péché, il est pire que le Covid. Si vous voulez prendre une image, c'est ça. Un missionnaire, Gibson Taylor, il était tout jeune lorsqu'on l'a invité à une conférence missionnaire. Et puis, il voyait que l'église parlait beaucoup de missions, mais il y a très peu qui s'élevaient. Et puis, il est monté en chair. Et puis, il a eu cette parole maladroite qui a froissé ceux qui étaient dans cette assemblée de bons citoyens anglais convertis à l'église anglicane, bien sûr. Il a dit, vous savez, la bonne nouvelle, quand on l'a, c'est comme une maladie contagieuse. Je dis, il compare la bonne nouvelle à une maladie contagieuse. Je dis oui, parce que quand on a la bonne nouvelle, on ne fait pas exprès de contaminer les autres. Comme quand tu es malade, tu ne fais pas exprès. Mais si tu as ce virus-là, qui était dans un environnement qui n'était pas protégé, tu contamines tous les autres. Il dit, c'est ça la bonne nouvelle. Il a inversé l'image pour dire que quand on a cette bonne nouvelle, on doit contaminer les autres. C'est ça le fruit que nous vont porter, bien-aimés. Et Jésus dit que cette annonce de la bonne nouvelle n'est pas d'abord une parole. Et c'est ce qu'il va continuer de dire dans ce texte. En exigeant que nous puissions, que les disciples s'aiment entre eux, n'est-ce pas? Voici au verset 12, d'abord il commence au verset 10. « Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi. » Et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il dit à ses disciples, vous êtes plus de simples disciples. J'ai tissé des relations filiales plus fortes, vous êtes des amis. Parce que dans notre culture, le rabbi qui est ton maître, il a ses disciples, mais il y a toujours un écart entre eux. Mais vous, j'ai brisé cet écart. J'ai fait de vous mes amis. Je vous ai dit des choses intimes. Il dit, je vous ai aimé jusqu'à ce point-là. Je vous ai aimé jusqu'à ce point-là. Il dit, vous m'avez vu faire ça, faites-le les uns avec les autres. Faites-le les uns avec les autres. Si vous voulez savoir comment on aime, lisez les évangiles, regardez comment Jésus a aimé. Comment Jésus a aimé. Parce que c'est ce qu'il dit dans ce texte. Il dit, je vous ai montré le modèle. Le modèle. Il dit, j'ai brisé des codes par amour. J'ai brisé des codes. On m'a traité peut-être d'un proxénète parce que j'ai laissé une prostituée s'approcher de moi. Mais il dit, cette prostituée-là, elle connaissait son état. Il dit, vous qui dites vous êtes saint, vous ne connaissez même pas l'état d'esprit dans lequel vous étiez. Vous étiez pire qu'elle dans votre tête. Mais elle, parce que c'était visible, vous la câbliez de péché. Mais vous étiez pareil comme elle. Parce que vos têtes... Et Jésus dit, ce qui souille, ce n'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort. Il dit, vos cœurs sont remplis de choses qui ne sont pas saintes. Il dira même à ses chefs religieux, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Hein, vous savez, malheureusement pour nous qui avons perdu des parents, parfois on fait des stèles pour nous rappeler leur mémoire. Et c'est important la mémoire de nos parents disparus. C'est important. Mais il dit, faites attention, ces stèles sont belles, mais ils ne sont plus là. Leur âme est déjà partie. Ce qui reste, c'est de la pourriture. Et il dit aux pharisiens, vous êtes comme ça. Vous êtes ces belles stèles qui sont sur une tombe, mais au-dedans, c'est des ossements pourris. Donc il dit, votre intérieur est mauvais. Mais à l'extérieur, vous paraissez bien. Et la dame, là, elle, à l'extérieur, elle paraît mauvais, mais je sais que ce qui est fait n'était pas bien. Et qu'elle avait besoin d'être restaurée, sauvée, retirée de là. Et elle a vu que Jésus était capable de faire ça. Elle s'approchait de lui. Il dit à celui qui lui fait cette remarque, tu sais, je suis rentré chez toi, si j'étais un maître considéré, quand un maître considéré rentre, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on lui lave les pieds, dans la culture juive, parce qu'il marche beaucoup avec des sandales pour s'asseoir autour de cette petite, de ce tapis. Il faut quand même un certain nombre de purifications. Il dit, tu ne me l'as pas fait. Mais cette dame, depuis qu'elle est rentrée, elle a couvert mes pieds de ses larmes, elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux, parce qu'elle a besoin que je lui donne l'absolution, que je la sanctifie. Et le prophète Samuel va dire, les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. La première sanctification, c'est celle qui est au-dedans de toi. Et l'apôtre Pierre va dire aux femmes, il dit, femmes, c'est vrai, vous êtes des êtres créés d'une façon belle. L'esthétique d'une femme est importante. Il dit, vos parures, elles sont belles, mais la parure la plus exquise d'une femme, c'est son caractère, c'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est au-dedans d'elle. C'est ce qu'elle est au-dedans d'elle. Mais ça s'applique aussi aux hommes, hein, pas qu'aux femmes. Et donc, cette invitation à porter de fruits, c'est aussi dans nos relations d'amour, les uns envers les autres. Et plus nous demeurons attachés, plus nous regardons comment Jésus a fait les choses et nous laissons impacter par Jésus, alors nos vies aussi sont impactées. Nos vies aussi manifestent des choses. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire, je suis le modèle. Je suis le bon modèle. Je suis le bon exemple. Dieu a accepté de venir comme l'un d'entre nous pour montrer que ce qu'il écrit, c'est possible de le vivre. Parce qu'on peut dire, ouais, mais toi, t'es Dieu, t'es là-bas, c'est bien. Mais nous, on est des hommes, hein, c'est un peu compliqué quand même pour nous. Hein. T'es pas là avec nous, tu vis pas ça comme nous, comme les enfants nous disent quelquefois. Hein. Mais papa, t'es pas là-bas. Oui, je suis pas là-bas, mais j'ai été jeune comme toi. C'est pas les mêmes galères, c'est pas les mêmes idées, mais quand même, on a été jeune. Et Dieu a fait cette expérience pour nous dire, ah, il y aura plus d'excuses. Hein. Et c'est ce qu'il dit par la suite dans le texte, à partir du verset 22, il dit, parce que je suis venu dans le monde, parce que j'ai montré en tant que Dieu, mais en tant qu'homme, que les lois, que les commandements, que le bien que Dieu dit, c'est possible de le vivre, alors les hommes n'ont plus d'excuses. Personne ne pourra dire, Ce que tu as dit là, ce n'était pas possible de le vivre. Franchement, tu n'es jamais venu. Tu n'as jamais été un homme. Tu ne peux pas le savoir. Hébreu dit, parce qu'il est venu comme l'un d'entre nous. Et que pire, il a été l'innocent qu'il était. Il a été pris dans un tourbillon de malhonnêteté, un tourbillon d'hypocrisie, un tourbillon d'affabulateurs, des gens qui ont vu leur pouvoir spirituel s'étioler devant l'étoile du matin qui était Jésus, lui ont intenté un procès injuste. Mais Jésus a dit, de toutes les façons, c'est pour cette heure que je suis venu. Sinon, votre procès-là, c'est un procès bidon. Lisez bien les évangiles, il n'y avait aucun témoin. Ils n'ont pas réussi à avoir des témoignages pour condamner ce monsieur. Ils ont fait venir, on dit, toute la nuit, ils ont fait venir des témoins. Mais tout ce que les gens disent, on dit, ouais, mais c'est bien, mais ça, c'est pas possible pour condamner ça. Ça ne condamne pas à moi un truc comme ça. Allez, passe, envoie un autre. Jusqu'à ce que Jésus lui-même dise, bah, écoutez, vous êtes un peu fatigué, je vais vous dire. Comme ça, ça facilite un peu le processus. Il dit, je suis le fils de Dieu. On dit, waouh ! Lui-même, il a dit, suis ta propre parole, nous te condamnons. Suis ta propre parole, nous te condamnons. Et à ce gouverneur qui lui disait, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi ? Il lui a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est parce que c'est pour cette heure que je suis venu. Il a cité Isaïe. Comme un mouton qu'on mène à l'abattoir qui ne dit aucun mot, le fils de l'homme est venu pour donner sa vie pour ceux qu'il aime. C'est pour cette heure que je suis venu. Dès ce moment, son sort humain a été scellé. Bref, bien-aimé, Jésus a montré ce que c'est que l'amour. Et nous devons, dans notre adage français, on dit, les chiens ne font pas les chats. C'est vrai, hein? Si les chiens ne font pas les chats, Jésus est amour. Les chrétiens ne peuvent pas être autre chose que amour. C'est pas possible. Et c'est ça qu'il dit dans ce texte. Il dit, vous les chrétiens, vous ne pouvez pas être autre chose. Votre nature, c'est l'amour, parce que vous êtes des enfants de Dieu. Et Dieu est amour. Comment pouvons-nous être autre chose? Nous ne pouvons pas être autre chose. Nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu est amour. Nous devons être aussi amour. Il dit, c'est un commandement. Et moi, j'ai réfléchi à ça. J'ai dit, mais est-ce qu'on peut exiger un sentiment? Parce que si l'amour est qu'un sentiment, on ne peut pas exiger un sentiment. Je ne peux pas obliger quelqu'un à avoir un sentiment pour m'aimer. Ce n'est pas possible, ça. On ne peut pas. Quand on le faisait dans les passés, on appelait ça des mariages forcés. Hein? On dit la petite jeune, elle n'aimait pas ce vieillard, mais on lui a donné un mariage forcé parce qu'il n'y avait pas de sentiment. Est-ce que c'est ça que Jésus dit dans ce texte? Est-ce que quand Jésus dit au chapitre 10, au verset 10, au verset 12, au verset 17, voici le commandement que je vous donne, aimez-vous les uns les autres, est-ce qu'il parle du sentiment? Non. Il ne parle pas du sentiment, parce que le sentiment est fugace. Le sentiment, quelqu'un a dit, le sentiment, c'est un sentier qui ment, un sentier qui ment. Parce que le sentiment, en fait, il fluctue en fonction des environnements, des situations, des circonstances de la vie. N'est-ce pas? Pour les plus anciens d'entre nous qui sont mariés, ils savent que ce sentiment, il est toujours là, mais parfois, voilà, il n'est pas forcément là. Mais il est bien souvent là. Mais s'il n'y avait que ça, on ne pourrait pas être fidèle, on ne pourrait pas durer dans nos relations conjugales. Mais ce qui est plus fort que le sentiment, c'est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est un amour qui se donne, c'est un amour qui aime l'autre, c'est un amour qui comprend que l'autre... Ah. Jésus dit, je ne vous appelle plus mes esclaves, je vous appelle mes amis. J'ai tissé une relation d'amitié avec vous. Et cette relation n'est pas juste qu'un sentiment, c'est un engagement que j'ai pris avec vous. C'est une responsabilité saine et sainte que j'ai prise. C'est un privilège de vous avoir. Il va prier pour eux, Jean chapitre 17. Il va prier pour eux. Jésus est marqué par cette relation avec ses disciples. Au point où même il est triste quand Judas va le trahir. Jésus n'a pas souri aux éclats quand Judas l'a trahi. Il était triste au-dedans de lui. Il dit, si tu avais pu ne pas être celui par lequel cette prophétie se serait accomplie. Mais ton cœur est mauvais, Judas. Et je n'ai pas pu te sauver. Parce que toi-même, tu as ouvert la porte à ça. Et donc l'amour dont Dieu nous parle, c'est un amour d'engagement. Il dit, dans les proverbes, au jeune homme, il dit, prends l'engagement de rester fidèle à la femme que tu as décidé d'aimer. Il ne dit pas, garde le sentiment tout le temps pour être fidèle à ta femme. Non, regarde l'engagement que tu as pris. Parce que l'amour, selon Dieu, est d'abord un engagement. On s'engage avec quelqu'un, on s'engage dans une relation avec nos enfants, n'est-ce pas? Si avec le sentiment, avec nos enfants, waouh, des fois, c'est un sentiment de colère parce que ce qu'il a fait, il dit, mais comment il a pu réfléchir pour faire ça? Il était en colère. Et notre petit dernier, quand il est en colère, il dit, papa, je suis en colère. J'ai dit, mais toi, ta colère, ça va me faire quoi? Il faut peut-être t'apaiser, Eli, il faut t'apaiser. Donc, s'il n'y avait que ce sentiment-là dans nos relations ne seraient pas fiables. Jésus dit, je suis le vrai sept. Donc, je suis fiable parce que ma relation d'amour à vous, elle ne s'étiole jamais. Elle est fidèle. Elle est solide. C'est pour cela que, parlant de l'amour conjugal, l'apôtre Paul dit, c'est un mystère. Quand il dit ça dans l'épître aux Éphésiens, il dit, c'est un mystère. Et il dit dans l'épître aux Corinthiens, ceux qui veulent se marier, c'est une belle chose, mais qu'ils réalisent non seulement le privilège qu'ils ont, mais la responsabilité qu'ils ont. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, au point de donner sa vie pour l'Église. Et un pasteur ancien disait à un jeune couple, est-ce que mon frère était prêt à faire ça? Le jeune frère a dit, j'avais jamais lu ce texte-là, il dit, voilà, c'est par là qu'il faut commencer. Si la femme qui est à côté de toi, que tu veux marier, est digne de que tu lui donnes ta vie, on va aller plus loin. Mais c'est ça la vie de couple, c'est ça l'amour selon Dieu. Je me marie à un être autre que moi pour lui donner le meilleur de moi-même. Et ce n'est pas que le sentiment. Parce qu'il y a des fois, nous sommes ce que nous sommes, hein. Parfois, il y a des tensions où tu dis, oh, comment je vais dire que... Ah, il y a des journées qui passent où les bonjours sont secs. Et pourtant, vous êtes sous ce même toit. Et nous, notre petit dernier, il était un détecteur de ça. Il détectait ça. Quand il sentait ça, il dit, papa, fais un bisou à maman. Je dis, oh là là. Parce qu'il sentait qu'il y avait une petite tension dans la maison. Que Dieu nous aide, bien-aimés. L'amour dont Jésus parle, c'est un engagement à aimer quelqu'un. Cet engagement va loin. On aime la personne pour ce qu'elle est, pas toujours pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Quand nous sommes mariés à cette personne, c'est une belle personne. Elle demeure une belle personne. Et c'est ça qui nous encourage. Et c'est réciproque aussi. Et puis on avance ensemble. Et moi, je suis reconnaissant à Dieu dans notre communauté parce qu'on a des exemples. On a des aînés qui durent dans leur relation. Et puis, on a des exemples aussi douloureux parce que la vie n'est pas toujours simple. Certaines de nos aînés, femmes, ont vécu des choses difficiles, mais sont restées fidèles à leur Dieu. Et ça nous encourage aussi. Ça nous encourage aussi. Ça nous encourage aussi. C'est ce type d'amour dont parle Jésus, bien-aimé. C'est ce type d'amour. Il dit, si nous restons attachés à lui, cette sève d'amour, il va continuer à nous la diffuser. Si nous restons connectés à lui, le flux d'amour va continuer de nous alimenter. Pour que nous fassions quoi? Nous alimentions aussi nos relations avec ce flux d'amour. Nos relations maritales, nos relations familiales, nos relations d'église. Nous prions que notre église soit une église où l'amour se vit dans le concret, dans la pratique. Et nous avons besoin de manifester cet amour aujourd'hui. Pour ceux qui ont eu le temps de regarder leur téléphone avant de venir, ceux qui n'ont pas eu le temps le regarderont en paix. Dieu nous éprouve dans ce week-end alors que je me préparais à parler de ça. Et nous avons quelque chose de concret à faire par rapport à une situation où il est Eric. Eric Zali, il est où? Une situation... Tu sais ce qu'Awa m'a dit, Eric? Elle m'a dit, Awa, c'est une jeune femme qui nous a mis devant une situation d'une famille en détresse. Elle-même, elle a eu cette situation, elle ne savait pas trop quoi faire. Elle a appelé tous les numéros que vous connaissez pour héberger ces personnes. Et elle dit, dans son dernier truc, elle se disait, mais qu'est-ce qui va se passer là? Eh bien, elle m'a dit, parce qu'elle est rentrée ici, hein, je lui ai donné une carte de l'église, elle m'a dit, et Dieu a envoyé votre collègue là, le monsieur qui est venu, c'est Dieu même qui l'a envoyé. Et Eric était de passage à l'église ce même soir. Et c'est lui, au nom de l'église, qui a porté ce doux fardeau et qui a résolu cette situation pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, frère. C'est ça l'église du Dieu vivant. C'est ça l'église du Dieu vivant. S'il n'avait pas été là, cette famille aurait dormi à la rue vendredi soir. Il y a des situations de vie, on ne sait pas ce qui nous attend. Dieu nous a mis au large, la plupart d'entre nous. Merci Seigneur, c'est une grâce. Mais il y en a, comme on le dit vulgairement, qui galèrent. Et nous devons manifester cet amour-là. Et nous avons besoin de vous, on en dira quelques mots plus tard, parce que là c'est une prédication. Merci Eric. Voilà, je termine en nous invitant à être sobres. Jésus dit, pour finir, que le monde l'a détesté. Parce que les valeurs qu'il prône, ce n'est pas toujours des valeurs que le monde aime. Et pourtant, c'est les valeurs de Dieu. Et d'ici, nous avons ces valeurs-là, ce n'est pas toujours que le monde va nous aimer. Donc, quand on dit monde, on ne parle pas des êtres humains, on parle du système de valeurs, on parle du système de réflexion, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas contre, mais nous avons des valeurs, nous avons une éthique, nous avons des choses que Dieu nous a dit de vivre. Et parfois, la société nous dit de vivre autrement, et nous ne voulons pas. Et la société nous déteste. Mais malgré ça, nous aimons la société, nous aimons les hommes, n'est-ce pas? Et c'est ça que Jésus nous invite à faire. Voilà, bien-aimés, Dieu veut que nous soyons ses disciples, pleins d'amour, restant liés à lui. Nous devons rester liés au sceptre qu'est Jésus, et ainsi le vigneron qu'est le Père nous taillera pour que nous portions des fruits de sainteté, des fruits d'amour, des fruits de l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse ensemble et qu'il nous laisse vivre une église qui est pétrie dans l'amour de Jésus-Christ, dans la relation intime avec le sceptre qu'est Jésus. Amen.